Mesdames, Messieurs, donc nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de ce Fonds européen de développement, justement, en appui à la santé des populations des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Donc le plan de mon cours sera le suivant. On va d'abord faire un rappel historique de la construction et des institutions de l'Union européenne pour que vous ayez un bon aperçu de la toile de fond sur laquelle se construit le Fonds européen de développement et l'aide au développement. Nous aborderons en deuxième point justement les éléments de la politique de développement de l'Union européenne. En troisième lieu, l'historique de ce fonds en appui à la santé plus précisément. En quatrième point, nous verrons les évolutions des modalités de coopération sanitaire de la coopération européenne sur les 20 dernières années, puisqu'elle commence réellement sur le terrain à partir du début des années 90. On verra quelques exemples rapidement de cette aide dans les pays, notamment au Bénin, à Madagascar, en Côte d'Ivoire. Et puis, si nous avons le temps, nous aborderons le rôle de la Cour européenne des comptes, qui élabore des audits, pas seulement financiers, des audits d'analyse stratégique de l'aide européenne en appui aux pays pauvres et qui a publié en 2007 et 2009 des audits très intéressants à la fois sur l'aide à l'Afrique en santé et sur les questions de renforcement de capacités institutionnelles justement et d'assistance technique. Pour ceux qui le souhaiteraient, les institutions européennes sont en train de créer un corps de volontaires humanitaires pour l'Union européenne. Donc je le dis aussi à l'attention des futurs volontaires de l'aide européenne et je communique toute fin de présentation, si nous n'avons pas le temps d'arriver jusque-là, le site internet de cette création récente. Donc tout d'abord, rappel historique de la construction des institutions de l'Union européenne. Pendant que notre administrateur se voyait décerner le prix Nobel de physique, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. A publié ceci. L'Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix en 2012. Cette distinction récompense son action menée depuis plus de 60 ans pour faire avancer la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme. C'est en effet une dimension politique très importante de l'Union européenne et depuis, dès l'origine de la construction de l'Union européenne, Robert Schuman, qui est le fondateur des communautés européennes dans le début des années 50, et les racines historiques de construction européenne remontent donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les Européens ont voulu à jamais se mettre à l'abri des folies meurtrières comme celles qui venaient de se produire. Donc la dimension de paix est très importante. Vous voyez d'ailleurs que la déclaration de Schuman du 9 mai 1950, on est 7 ans avant le traité de Rome, donc au tout début des négociations, des discussions de la construction européenne, la déclaration commence ainsi. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. Donc en effet, la dimension de paix est très importante. Indépendamment des institutions européennes, vous avez le Conseil de l'Europe, mais qui est une institution distincte des institutions européennes, mais qui se réunit au même moment, dès 1949, à aujourd'hui 47 États européens, pendant que l'Union européenne a 27 États membres. Donc le Conseil de l'Europe réunit 47 États européens, donc du continent européen plutôt, en un espace démocratique et juridique autour de la Convention européenne des droits de l'homme, donc signé depuis 1950, et autres textes sur la protection de l'individu et de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est vraiment une institution centrée sur la question des droits de l'homme pendant que les institutions européennes ont un mandat beaucoup plus large, politique, économique, migration, etc. Alors, vous avez toujours dans ce livre élaboré sous présidence de l'Union européenne en 2008 par le réseau Coordination Sud et RFI, un chapitre justement qui a interrogé quelles étaient les attentes du monde vis-à-vis des institutions européennes et quel rôle pour l'Europe dans la construction d'un monde de paix. Donc vous voyez, c'était une des dimensions qui était analysée par cette conférence de coordination sud et reprise dans le livre « Regard du monde sur l'Europe ». Il y a assez peu d'ouvrages qui interrogent les pays du Sud sur leurs attentes à l'égard de l'Europe et vous avez eu ce privilège d'écouter aujourd'hui le sous-secrétaire général du groupe des États ACP. Donc, je vous donne un peu tous ces éléments pour, concernant les attentes de ces populations à l'égard de l'Union européenne. En résumé, 27 États membres, une construction très progressive. Au début, 6 États fondateurs, la France, la Belgique, le Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. 6 pays fondateurs pendant 20 ans, jusqu'à l'entrée donc, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark en 1973, puis de la Grèce en 81, puis de l'Espagne et du Portugal en 86, puis l'Autriche, Suède, Finlande en 95. Nous sommes à 15 États membres pendant assez longtemps, jusqu'à 2004, où 10 États membres, nouveaux États membres, entrent dans l'Union européenne. Donc, vous vous souvenez, en 2004, la Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, etc. Puis plus récemment, donc, Bulgarie, Roumanie. Et prochainement, dans les 2 mois qui viennent, probablement la Croatie. Donc, c'est 500 millions d'habitants. Je vous donne le site internet de europa.eu. Les parlements des 6 pays, donc, à l'époque, votent l'entrée en vigueur de la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis de la communauté européenne de défense. Le traité de Rome en 1957 institue la communauté économique européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique, qui constituent les communautés économiques européennes. Et on a parlé longtemps de la CE. Donc, voilà l'adhésion progressive, la succession. Les étapes clés, donc, il y en a eu beaucoup, mais les étapes clés récentes sont le traité de l'Union européenne signé à Maastricht en 1992 par 12 États membres donc, de l'Union européenne et qui permet le lancement de l'intégration politique. Jusque-là, l'institution, la communauté économique européenne a pour mission le développement économique et social principalement, les échanges, le commerce. Et à partir du traité de Maastricht, une dimension politique avec l'institution de la politique étrangère et de sécurité commune et la communauté européenne et l'Union monétaire européenne. Puis le traité de Lisbonne, donc beaucoup plus récemment, dont vous avez certainement vu les évolutions et les négociations pendant plusieurs années même, donc a été ratifié et entré en vigueur en tout cas en décembre 2009, après la ratification des 27 États membres, qui donne sa personnalité juridique à la Commission. Et il confirme la dimension politique de la construction européenne en instituant premièrement un président permanent du Conseil européen et la haute représentante de l'Union européenne pour l'action extérieure. Institue aussi la fusion de l'ancienne direction générale du développement de la Commission européenne qui réfléchissait sur les politiques, qui élaborait les politiques, fusion avec la DG Europaid qui était en charge de la mise en œuvre des politiques du développement et des budgets de financement du développement de la Commission européenne. Et aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une seule direction générale qui s'appelle la DEFCO, la Direction Développement pour la Coopération. Le traité de Lisbonne transforme, si vous voulez, fait évoluer les délégations de l'Union européenne dans les pays du Sud, donc toutes ces ambassades en fait, de l'Union européenne et des institutions européennes dans les pays du Sud, en institutions plutôt diplomatiques et politiques, où le chef de délégation devient un ambassadeur de l'Union européenne. Donc la dimension politique se prolonge dans les pays partenaires donc, du développement. Et surtout, le traité de Lisbonne étend les prérogatives du Parlement européen, ils sont renforcés et avec un dialogue donc, sur tous les sujets entre le Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen. Et vous avez entendu que le budget tel qu'il a été proposé par le Conseil pour les années qui viennent, donc 2014-2020, a été rejeté hier par le Parlement européen. Et le Conseil qui avait prévu de se réunir donc aujourd'hui, c'est vraiment le jour pour parler de l'Union européenne, le Conseil se réunit aujourd'hui à Bruxelles et demain pour discuter de différents sujets économiques, développement, etc. Mais notamment, la question du budget va être à nouveau à l'agenda aujourd'hui à Bruxelles. Alors ici, vous avez donc l'ensemble des États membres. C'est une carte donc, de l'Union européenne. Et puis, vous avez ici les États candidats, cibles des politiques d'élargissement de l'Union européenne à des États candidats, la Turquie, le Monténégro, la Croatie, donc qui va devenir bientôt, cette année, normalement, un État de l'Union européenne. Alors, le président du Conseil européen, institué par le traité de Lisbonne, c'est l'ancien Premier ministre de la Belgique, Herman Van Rompuy. Il préside et conduit les travaux de l'Union européenne. Il représente politiquement l'Union européenne dans le monde également. Donc, le Conseil européen fixe les grandes priorités de l'Union européenne, a élaboré une stratégie Europe 2020, et il est constitué des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent une fois par trimestre. Donc, les politiques économiques, budgétaires, emploi, les problèmes sociaux, les problèmes de chômage, toutes ces questions sont discutées justement aujourd'hui. Le Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne est institué par le traité de Lisbonne et c'est Lady Catherine Ashton, donc la haute représentante de l'Union européenne, plus 137 délégations, puisque depuis très peu de temps, Djouba au Sud-Soudan a maintenant sa délégation. C'est un nouvel État avec une délégation de l'Union européenne. Et ce Service européen pour l'action extérieure a des missions de politique de paix, justement, dans le monde, de sécurité, et relève de sa tutelle, en même temps que des commissaires en charge donc de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, le Service européen pour l'action extérieure a un rôle très important maintenant, puisque toute la programmation et la demande, l'élaboration des projets de développement qui remontent depuis les pays, ACP ou d'autres pays selon les régions, passe par ce Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne. Donc, et ensuite, avec l'aide de la DEFCO, les programmes vont être élaborés et mis en œuvre en faveur des pays. Donc, nous avons, pour les institutions qui concernent l'aide au développement, le Conseil, on vient d'en parler, le Service européen pour l'action extérieure, la Commission européenne, le Parlement, la Cour des comptes et la Cour de justice. Vous avez d'autres institutions, notamment des banques européennes, mais tout est sur le site. Là, j'insiste surtout sur celle-ci, qui sont les institutions auxquelles nous avons affaire dans le domaine de l'aide au développement. Alors, à côté de la présidence permanente de l'Union européenne, vous avez une présidence tournante des pays États membres de l'Union européenne. Et en ce moment, depuis janvier jusqu'à juillet, nous sommes sous présidence de l'Union européenne de l'Irlande. La présidence française était donc à l'automne 2008. Et chaque semestre, la présidence de l'Union européenne tourne. Voilà. Alors, la Commission européenne, elle est dirigée par Jean-José Manuel Barroso. Son mandat est de 5 ans, il a été renouvelé. C'est la seule institution de l'Union européenne qui a le droit d'initiative et qui propose et qui a une codécision avec le Parlement. Donc, elle a beaucoup d'initiatives et elle fait beaucoup de propositions à la fois politiques dans le champ du développement ou d'autres champs et à la fois de mise en œuvre. Elle a la responsabilité, donc c'est une sorte d'organisation exécutive des politiques européennes. Donc, c'est la Commission européenne veille à l'exécution du budget de la Commission. Elle est composée de 27 commissaires, donc présidés par Manuel Barroso, un par État membre. Chaque État membre de l'Union européenne a son commissaire. Et le commissaire au développement, c'est Andris Piebalgs, qui a des priorités sur des thématiques. On va voir ses priorités politiques dans un instant. Alors, j'ai pour mémoire rappelé la présidence de Jacques Delors, donc de 85 à 94, parce que c'est quand même 10 ans de mandat de président de la Commission européenne. Il est venu en conférence à Sciences Po en 2011 nous rappeler un petit peu ce qu'il appelait les meilleures années, donc les années euphoriques même de la construction européenne, où il dit que la légitimité assurée par une codécision de la Commission avec le Parlement est une dynamique très intéressante. Il dit aussi que la philosophie de l'acte unique européen, c'est la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Je crois qu'avec cette phrase-là, on a une bonne idée de la mission que se donne l'Union européenne. Et il a dit un mot sur la question des règles, et qu'il y a trop de règles, c'est un des reproches qu'on fait aux institutions bureaucratiques de Bruxelles, et que là où il y a des règles, il n'y a pas de morale, et qu'il faut de la morale, des principes, de la générosité. Il faut aussi être inventeur de simplicité. Enfin, je trouvais que c'était quelques petites remarques d'un grand monsieur de l'Union européenne, de la construction européenne, et qu'il était bien de les rappeler. Vous avez l'aide humanitaire de l'Union européenne qui est administrée par une autre direction générale. donc la European Commission Humanitarian Office, la DG ECHO, et qui relève d'un autre commissaire, le commissaire à l'aide humanitaire. Donc les dimensions humanitaire et développement sont séparées dans l'architecture donc institutionnelle de l'Union européenne et sont amenées à travailler ensemble dans, de plus en plus dans des contextes de situations de conflit, post-conflit, reconstruction. Et c'est toute la difficulté justement de faire ce relais entre une situation qui nécessite une assistance humanitaire très verticale, très ponctuelle, que ECHO n'apporte pas directement, mais indirectement en finançant les agences des Nations Unies ou des ONG d'aide humanitaire qui sont sur le terrain et qui vont recevoir ces financements de ECHO pour agir localement. Et petit à petit, en sortie de crise, travailler en parallèle pendant un moment, ECHO et DEFCO, et puis le relais par DEFCO pour reconstruire les institutions santé, par exemple, éducation, les infrastructures, etc., où la dimension développement de l'Union européenne prend petit à petit le dessus. Et il y a des analyses de cette transition qui n'est pas facile à mener dans ces pays et des analyses très intéressantes sur le site de ECHO que je vous invite à regarder, que je vous indique ici. Le budget est quand même très important parce que c'est presque, donc c'est 976 millions d'euros par an. C'est quand même important, mais c'est pas non plus, ça ne couvre pas les besoins de ces pays, loin de là. Donc, mais c'est quand même un budget important du côté Union européenne. Donc la coopération au développement avec les États ACP se met en place dès les débuts de la construction européenne. En fait, quand on est au moment du discours de Schuman et au moment du traité de Rome, les États européens ont des colonies. On se replace dans ce contexte-là. Le but de l'association, dit l'article 131 du traité de Rome, l'association donc des États européens avec les colonies, est la promotion du développement économique et social des pays et des territoires et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la communauté dans son ensemble. L'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. Donc, en fait, l'idée, c'est de maintenir les échanges commerciaux qui existent, des liens d'aide au développement, de reprendre ou de continuer aussi au travers de l'aide au développement, et aussi toute cette question des accords préférentiels qui vont être conclus entre les États européens et leurs anciennes colonies petit à petit au moment de l'adhésion des États européens. Au fur et à mesure de leur adhésion, les États européens vont amener leurs anciennes colonies avec eux dans le partenariat Fonds européen de développement et ACP. Donc on a déjà vu les institutions européennes, je les rappelle un petit peu ici, surtout les directions générales de la Commission qui sont impliquées, c'est donc la DEFCO, mais aussi la DG Commerce, et notamment sur les questions de santé et d'accès aux médicaments, des accords ADPIC de propriété intellectuelle et d'accès aux médicaments, beaucoup de concertations se passent entre la DG Commerce et la DG DEFCO, pour assurer, et c'est un des objectifs de la nouvelle politique européenne de développement, une cohérence institutionnelle en interne entre les politiques européennes de commerce et de santé publique, ce qui n'est pas évident à traduire au niveau des pays. Vous avez la DG Sanco, Santé communautaire, qui est une direction générale qui s'occupe des questions de santé au sein des États de l'Union européenne et qui a quelques actions extérieures, mais pas beaucoup. Quelques-unes, surtout sur les transferts de technologies, certaines politiques communes de santé, etc. En tout cas, l'élaboration de communications du Conseil au Parlement européen et de la Commission au Conseil et au Parlement européen, qui sont des documents de politique européenne sur différents domaines. Et dans le développement, il y a beaucoup de dialogues inter-DG comme ça, les DG Trade, la DG Trade, les DG Sanco, la DG Recherche et Innovation, la DG DEFCO travaillent ensemble à élaborer des communications communes, comme la dernière communication politique de santé au niveau mondial, EU Role in Global Health, a été élaborée conjointement par plusieurs DG. Alors, le Parlement européen exige que 20% du budget de la Commission européenne soit consacré dans l'aide au développement, donc aux aspects, aux secteurs sociaux et à la protection sociale. C'est une attente formulée depuis plusieurs années par le Parlement européen qui s'adresse à l'instrument donc, de développement de coopération internationale, des CI, mais qui théoriquement ne concerne pas le Fonds européen de développement parce que le Fonds européen de développement n'est pas un budget, n'est pas inscrit au budget de la Commission, mais c'est un fonds financé de manière séparée par les États membres de l'Union européenne sur des contributions volontaires. Donc les exigences du Parlement ne sont... Le Parlement les exprime en direction du FED, mais juridiquement, enfin, ils ne sont pas tenus de répondre aux exigences du Parlement parce que c'est un fonds financé à part du budget européen, ce qui va changer à partir de 2020 pour la première fois, puisque justement nous entrons dans la dernière phase du Fonds européen de développement, la programmation du 11e FED 2014-2020, et que ce devrait être en principe le dernier FED qui sera désormais budgétisé dans le budget de la Commission européenne, comme beaucoup le demandent depuis des années déjà. Donc vous avez le commissaire Andris Piebalgs, donc pour la DG, le commissaire européen pour le développement, et le directeur général de DEVCO actuellement, Fokion Fotiadis, qui donc sont les piliers de l'aide au développement européenne. Là, j'ai mis l'organigramme, vous pourrez le voir en ligne, donc de la DG DEFCO. Peut-être on peut s'arrêter un instant sur le fichier qui est plus lisible de l'organigramme, parce que ce que vous voyez, donc, c'est cette fusion politique. Là, vous avez ici les directions qui élaborent les politiques de développement. Vous avez ici tout ce qui est dimension développement humain, avec les questions de santé ici, éducation, santé, donc thématique, si vous voulez. Donc, cette direction, en fait, a très peu d'experts santé. C'était une des remarques de la Cour européenne des comptes dans son rapport en 2009. Très peu d'experts santé qui sont des conseils auprès des délégations de l'Union européenne dans les pays. Et là, vous avez des directions géographiques d'Afrique de l'Ouest, des pays du voisinage, d'Amérique latine. Et on va voir dans un instant que les instruments de financement, les modalités de financement de l'aide au développement sont différents selon les régions. Là, c'est plutôt, donc on est plutôt dans la région ACP dont M. Basilekin vient de vous parler. Et ici, les pays du voisinage, donc de l'Europe de l'Est et de la Méditerranée, voisinage de l'Union européenne, tous ces pays qui entourent l'Union européenne, et puis l'Amérique latine et l'Asie dont les instruments de financement du développement sont différents, nous allons le voir. Donc, quelle est la politique de développement de l'Union européenne? Elle était jusque-là exprimée, d'abord, elle est élaborée conjointement par l'ensemble des États membres. C'est vraiment une dynamique intéressante entre tous les États membres de l'Union européenne qui se concertent sur les priorités du développement. Elle est aussi mise à la consultation de la société civile, de différents experts, enfin tout le monde peut réagir lors de l'élaboration de cette politique, soit en ligne, soit en assistant à des réunions à Bruxelles. Enfin, c'est très participatif, l'élaboration de cette politique. Et le document le plus récent, je vais vous remettre la diapo. C'est ce document-là, donc augmenter l'impact de l'aide au développement, de la politique de développement, un agenda pour le changement. Donc c'est ce document qui est la référence actuellement. C'est une communication du Conseil au Parlement, la Commission au Conseil au Parlement en octobre 2011. Et ses deux objectifs principaux sont l'éradication de la pauvreté. On est dans le paradigme de la lutte contre la pauvreté déjà depuis une quinzaine d'années et la réalisation des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Donc 20% de ces budgets doivent être consacrés aux secteurs sociaux. Qu'est-ce qui est nouveau en fait par rapport au consensus européen de développement 2005? Ce qui est nouveau, c'est que plusieurs pays ont changé de niveau de PIB au cours des dernières années et que les critères d'allocation de l'aide au développement de l'Union européenne sont révisés en fonction du niveau de développement des pays. Donc, il y a un recentrage désormais de l'aide européenne sur les pays les plus pauvres, et certains pays vont sortir du champ de l'aide, comme l'Inde, mais aussi probablement l'Indonésie, la Thaïlande, tous ces pays dont le revenu est, ce ne sont pas encore des pays émergents, mais ce sont des pays à revenus quand même plus importants et qui a augmenté ces dernières années et qui vont sortir progressivement de bénéfices de l'aide européenne, mais pas seulement de l'aide au développement en général. Donc, concentration sur les pays pauvres, concentration sur les États fragiles, et puis un recentrage sur une concentration sectorielle vers plus de secteurs sociaux. Le commissaire au développement voudrait une politique plus marquée sur la santé, l'éducation, l'emploi, et les deux secteurs donc majeurs, agriculture, sécurité alimentaire, énergie. Voilà les trois grands thèmes prioritaires de l'aide européenne dans les 7 ans qui viennent. Et ce sont les priorités du commissaire. Ce sont aussi des priorités qui ont été affirmées par la Banque mondiale, d'autres agences et par les pays probablement, mais avec un grand changement quand même concernant les transports, puisque les transports ne figurent plus parmi les priorités de l'Union européenne. Les infrastructures, les routes ne vont plus être une priorité dans les années qui viennent, ce qui est quand même un très grand changement de ce point de vue-là. Avec l'idée, donc, le commissaire insiste pour que l'objectif de 0,7% du revenu national brut d'aide au développement soit respecté d'ici à 2015, c'est quand même très, très proche. Pour l'instant, la moyenne européenne, c'est 0,43%. Et en sachant que les citoyens dans leur ensemble, 85% des citoyens européens, il y a une étude qui est intéressante, qui a été faite, qui s'appelle « La solidarité à travers le monde, les Européens et l'aide au développement », donc une étude qui a enquêté auprès des Européens et qui montre quand même un niveau d'intérêt, une approbation très importante, 85% des citoyens européens. Et ça n'a pas tellement changé depuis ces dernières années. Trouve important d'aider les populations des pays en développement. L'Union européenne, c'est le premier donateur en dons au niveau mondial. Et 21% de l'aide totale des États membres de l'Union européenne passe par les institutions européennes, en plus de leur aide respective bilatérale, donc de leur pays avec les pays du Sud. La programmation donc 2014-2020 est en train d'être faite et le budget était finalisé entre le Conseil et la Commission européenne et proposé au Parlement, donc vient d'être rejeté. Donc la négociation va se poursuivre. Mais la programmation telle qu'elle était proposée, c'était à peu près 28 milliards donc pour le FED, ce qui n'est pas un grand changement. C'est une très légère augmentation par rapport à la phase précédente. Mais dans le monde qui vient, dans le monde ACP qui vient avec la croissance démographique, énormément de jeunes sur le marché de l'emploi, etc., donc ça revient probablement à une diminution relative du Fonds de développement sur les années qui viennent. Alors, vous voyez ici les évolutions des flux mondiaux d'aide donc de plusieurs pays. Vous avez le Canada ici, dont l'aide est relativement stable, le Japon également, les États-Unis, où ça a augmenté, mais où les évolutions sont relativement stables. Et vous n'avez pas, on ne la voit pas très bien, ah non, on ne la voit pas sur... mais la courbe donc de l'aide européenne, elle se situe ici. Et je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas sur la slide, mais vous la verrez donc sur Internet, mais elle est très largement au-dessus et l'aide a augmenté. Alors, quels sont les instruments de financement du développement? Ça, c'est important à comprendre pour situer le Fonds européen de développement par rapport aux autres instruments de financement. Donc, il y a 3 instruments géographiques de financement, c'est-à-dire que les financements vont dépendre de la zone aidée, si vous voulez, pour résumer. Vous avez l'instrument DCI qui cible donc la coopération hors État ACP. C'est l'instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013 et qui va se poursuivre donc dans la phase suivante 2014-2020 avec une géographie qui cible l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud fait partie de la région ACP, est représentée à Bruxelles au secrétariat des États ACP, mais ne bénéficie pas du FED n'est pas un bénéficiaire du Fonds européen de développement, il est bénéficiaire donc de l'instrument DCI. La région, donc vous avez un autre instrument qui est ENP, European Neighborhood Policy Instrument, qui est pour la région du voisinage, du pourtour de l'Europe méditerranéen et des pays de l'Est. Et vous avez le Fonds européen de développement donc, qui finance exclusivement les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La majorité de l'APD européenne est consacrée à l'aide et à la sécurité alimentaire, l'environnement et les forêts tropicales, la santé, le cofinancement des ONG, c'est un petit peu l'évolution. Et après, on va revenir sur les modalités de financement, mais vous avez ici voilà, la répartition de l'aide européenne selon les régions. Sur la période 2008-2010, parce qu'on ne l'a pas de manière régulière et systématique. Donc vous voyez qu'elle se concentre, que l'Afrique est clairement une région privilégiée de l'aide européenne, mais est-ce que la proportion est relative à la population, le niveau de pauvreté, les problèmes économiques et sociaux, la vulnérabilité en quelque sorte? Ce sont des discussions qui ont lieu dans le cadre de la définition des critères d'allocation d'aide du budget de l'Union européenne et du Fonds européen de développement. Alors, comment est suivie cette efficacité d'aide européenne? Donc, on a le cadre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et l'harmonisation avec ses principes. Nous l'avons vu au cours de cette année, avec des dispositions donc, d'alignement, d'appropriation, d'harmonisation des instruments entre différents bailleurs, etc. Mais vous avez aussi le code de conduite sur la complémentarité et la division du travail, qui est une politique de l'Union européenne pour une meilleure cohérence et collaboration et complémentarité entre les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne à l'échelle dans les pays. Et de plus en plus, sous la nouvelle politique de développement, cette concertation, cette programmation va être conjointe entre les pays des États membres, donc la France, l'Italie, d'autres États membres, l'Angleterre, etc., et la délégation de l'Union européenne dans les pays pour être plus efficace, mieux coordonnée entre pays européens. Donc vous avez nombreux rapports qui analysent cette efficacité d'aide, son impact, sa contribution. Et celui que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est le rapport de l'OCDE, l'évaluation par les pairs. Donc le mécanisme est intéressant parce que tous les deux ans, l'aide d'un État est analysée par ses pairs dans le cadre de l'OCDE, du Comité d'aide au développement. Et l'aide européenne a été analysée donc, l'année dernière, en tout cas le rapport a été publié l'année dernière, a été réalisé par le Japon et la Norvège, et qui donne toute une série de recommandations sur son rôle international et l'impact de ses financements, sur la difficulté et la complexité de l'administration des financements. Il faudrait simplifier sur l'augmentation du pouvoir dans des délégations par rapport au siège de Bruxelles, qui a quand même beaucoup évolué depuis 10 ans. Les délégations ont beaucoup plus d'autonomie, de marge de manœuvre, d'indépendance dans les pays que 10 ans avant, mais ça doit encore changer. Alors, pour ce qui est du Fonds européen de développement, il se construit dès le début comme la politique de développement. Il va être le premier instrument de financement de l'aide au développement, donc en direction de l'Afrique notamment, puisqu'au début, on a les États membres, France, Belgique, qui sont associés à leurs anciennes colonies. L'Angleterre n'adhère qu'en 1975 et fera rentrer ces pays à ce moment-là. Donc la France est très présente et défend au début très fortement à la conférence de Venise que l'aide européenne bénéficie aux États qui lui sont associés, aux pays et territoires d'outre-mer également. Les commissaires au développement d'ailleurs vont être français pendant des années, pendant des décennies, à la DG Développement à l'époque, à la DG du Fonds européen de développement de 1962 à 1975. Si vous êtes intéressé par cette histoire, il y a un très bon document de Dieter Frisch qui a été pendant très longtemps acteur de la politique de développement de l'Union européenne et qui avait publié, je vous donne la source dans une des diapos, toute l'histoire de la contribution européenne au développement. Donc c'est un document très intéressant. Et par ailleurs, Corinne Balex, qui a travaillé à la représentation permanente de l'Union européenne à Bruxelles et qui a publié à la documentation française il y a 2 ou 3 ans un livre sur l'aide au développement européenne. Donc il décrit justement la très forte présence française pendant les premières décennies, ce qui va changer progressivement. Il faut dire que la France a été le premier contributeur au Fonds européen de développement jusqu'au 9e et 10e FED, donc jusqu'à très récemment. Et depuis le 10e Fonds européen de développement, c'est l'Allemagne qui est le premier contributeur au Fonds européen de développement. Ce sont des contributions volontaires des États membres et la France finançait 1/4 du Fonds européen de développement. C'est maintenant 1/5 du Fonds européen de développement. Donc c'est un financement à part, on l'a vu, hors budget, ciblant donc une géographie très précise. Le comité, il est dirigé, donc comme il n'est pas au budget de l'Union européenne, c'est un comité directeur du FED qui se réunit des pays contributeurs. Et les pays les plus contributeurs, donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, mais très peu les nouveaux États membres qui sont entrés en 2004 financent très peu le Fonds européen de développement. Donc, il finance les 77 pays ACP, 20 territoires d'outre-mer. Et l'institution qui est intéressante, c'est l'Assemblée parlementaire paritaire, c'est-à-dire les élus des États ACP discutent avec les élus des États membres européens. Et ça, c'est assez original parce que de là vont émaner des demandes très précises, des attentes très précises de politique de développement, comme on va le voir dans un instant à propos du FED dans les années 90. Donc oui, les accords économiques et commerciaux se matérialisent au travers de conventions accompagnées de protocoles financiers et ces protocoles financiers donc, qui incluent le montant et les modalités de coopération doivent être signés, ratifiés par tous les États membres de l'Union européenne et par les 2/3 des pays ACP. Donc c'est un processus qui prend du temps. Et un FED peut être voté et être mis en œuvre 2 ou 3 ans plus tard parce que, à cause de ce processus de ratification vraiment très, très participatif. Voilà toutes les étapes historiques des conventions FED-ACP. Donc, vous avez le premier FED. Je vous ai mis le titre. C'est pour ça que vous entendez premier FED, deuxième FED, enfin, surtout ces dernières années, 6e, 7e FED, 8e FED, 9e FED, etc. Donc nous sommes actuellement dans la discussion de la programmation du 11e FED sur la période 2014-2020 et ce sera le dernier. Et vous avez toute l'histoire donc depuis 1959 sur la base de la convention du traité de Rome ici. Vous avez 6 États membres de l'Union européenne jusque-là, les 9 États membres ensuite, 10, 12, etc. Ça suit la construction de l'Union européenne. Vous voyez de ce côté de la diapo et toutes les conventions donc, entre ces États membres à chaque étape avec les États ACP qui, eux aussi, se diversifient et augmentent au fur et à mesure de la construction des États de l'entité ACP. Et vous voyez qu'au début, les conventions de financement sont signées pour 5 ans sur toute cette période et qu'à partir du 7e FED, la convention de Lomé 4, les conventions vont être signées pour 10 ans et que le 9e FED, l'accord de Cotonou, signé en 2000, est signé pour 20 ans, bien qu'il soit révisé régulièrement. Il y a eu déjà plusieurs révisions de l'accord de Cotonou depuis 2000. Et vous voyez le montant du 10e FED donc sur la période 2008-2013 qui s'achève cette année, donc à la fin de l'année, c'était 22 milliards d'euros. Vous avez sa répartition ici. Et la programmation, bien, c'était 28 milliards d'euros la proposition, mais comme ça a été rejeté, bon, ça ne bougera pas beaucoup, mais nous n'avons pas encore le montant final du 11e FED. Alors là, c'est juste une slide, on ne va pas aller trop dans le détail, mais c'est pour vous montrer, par exemple, au moment du traité de Rome, donc, la convention d'application avec la France qui associe tous ces pays-là. Donc la France arrive avec vraiment énormément de pays associés en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, les autres territoires français. Et puis, quand l'Angleterre, le Royaume-Uni, donc, devient État membre en 1975, amène tous ces États associés, pays du Commonwealth, pays hors Commonwealth, et avec la diversification petit à petit, l'ouverture à l'Amérique latine, aux Caraïbes et à l'Asie, mais à part les Caraïbes et le Pacifique, donc qui entrent dans la dimension ACP, l'Asie et l'Amérique latine sont administrées, l'aide à ces régions est administrée par d'autres instruments, par des CI. Une étape importante et intéressante de l'accord de la construction UEACP, c'est l'accord de Georgetown à Guyana en 1975 et qui scelle l'identité ACP, parce qu'on a quand même trois régions très différentes, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Trois régions très différentes et qui se sont pourtant regroupées depuis longtemps, en 1975, hein, ça fait presque 20 ans. Mais l'entité ACP, l'identité, c'est Babacar Ba qui l'exprime en 1975, c'est un Sénégalais, et il dit à l'Union européenne, il dit à la Commission européenne à l'époque, à la communauté européenne, c'est ainsi que vous avez devant vous non plus trois groupes qui exposent par une voix des positions harmonisées, mais un groupe unique des ACP qui a voulu ainsi reconnaître une identité de destin et sa volonté inébranlable de parvenir à des résultats positifs dans le cadre des négociations. Donc vous avez ici une sorte de renforcement de politique de l'entité ACP. Donc, représenté par le secrétariat, donc c'est une structure exécutive de leur groupe des États ACP, de représentation de toute la région basée à Bruxelles, dont vous avez vu le sous-secrétaire général, qui est actuellement d'ailleurs le secrétaire général par intérim, puisque le secrétaire général des États ACP a démissionné il y a 2 ou 3 semaines et qu'ils sont justement en train de, dans le processus d'identifier son successeur. Et avec des travaux intéressants, donc en 2007, M. Basilikin en a parlé, de la première conférence des ministres de la Santé des États ACP à Bruxelles. Et ce qui était très intéressant, c'était justement de voir cet échange entre les ministres et puis leurs équipes techniques, et surtout sur toute la question des ressources humaines, Cuba qui présentait comment il faisait pour former des dizaines de milliers de personnes, de médecins, de soignants, des dizaines de milliers, c'était à l'époque 70 000 ou 80 000 médecins formés, donc ça doit être beaucoup plus maintenant, et où tous les pays africains notamment étaient intéressés, très intéressés d'entendre Cuba raconter cette expérience de formation des personnels de santé. Donc les échanges sont vraiment très, très intéressants au sein de la région. Donc vous avez les préparatifs. Alors voilà, petit à petit, donc pendant toutes ces années, il n'est pas question de santé, il est question de relations économiques et commerciales. Et puis tout d'un coup, dans la Convention de Lomé 3, dans les préparatifs de la Convention de Lomé 4, petit à petit, un rapport sur la santé dans les États est fait. Il y a une mission dans plusieurs États et un constat dans les années 80 de la situation sanitaire déplorable des États ACP et une première résolution de cette assemblée parlementaire, donc des élus des ACP, des élus européens, qui demandent à ce que la santé ait une place plus importante dans les relations UE-ACP. Et la santé est considérée jusqu'ici, reconnaît la résolution, comme une dimension peu importante de la coopération ACP-CE au regard d'autres domaines, même si des investissements ont été consacrés, mais ponctuellement. Et elle appelle cette résolution au renforcement ACP-CE en matière de santé dans la 4e convention de Lomé et à procéder à un examen attentif dans ce secteur. Et c'est bien la convention de Lomé, les dispositions de Lomé 4, qui pour la première fois vont faire entrer la question de la santé, le secteur de santé, comme une dimension de coopération entre l'Union européenne et les États ACP, donc à la demande de ceux-ci. Pourquoi ? Parce que se produisent à ce moment-là 2 événements majeurs dans les années 80, en plus des conséquences sociales de la crise économique, de la chute du cours des matières premières, de la pression démographique, de la crise de la dette. On est dans tout ce contexte en Afrique, notamment dans les années 80, et en plus émerge l'épidémie de sida. Sa propagation très rapide en Afrique, dans les Caraïbes également, ce sont encore aujourd'hui les 2 régions les plus atteintes du monde, Afrique et Caraïbes, donc les régions ACP vraiment très concernées par la pandémie de sida, avec des menaces pour la santé publique et le développement, des conséquences sur le développement qui sont déjà établies notamment par des études de la Banque mondiale à l'époque. En 1992, l'épidémie a déjà atteint 10 millions de personnes et vous savez que plus de 75% des cas donc sont en Afrique. Alors ça, c'est un premier élément. L'épidémie explose dans la région. Et deuxièmement, les politiques macroéconomiques d'ajustement structurel préconisées par les institutions de Bretton Woods, justement en réponse à la situation crise de la dette, crise économique, réduction des budgets publics, etc., ont des conséquences aussi pour les secteurs sociaux, les dépenses de santé, avec des effets sur la détérioration de l'offre de soins. Et donc, les ACP demandent l'aide européenne et des aides à l'ajustement structurel en direction aussi des secteurs, notamment du médicament, des politiques de pharmaceutiques, pour réagir à la situation qui se détériore. Peu après ce moment, où ces facteurs donc, que je viens de vous énumérer comme déterminants de l'entrée en scène de la Commission européenne sur le secteur santé, la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA en janvier 1994, avec des effets sur la capacité d'importation des produits, puisque tous les prix ont doublé du jour au lendemain. Donc la subvention du médicament accordée par l'Union européenne est accordée immédiatement après la dévaluation du franc CFA, permet le réapprovisionnement des grossistes et des centrales d'achat pharmaceutiques du secteur public de certains pays pour qu'ils continuent à s'approvisionner, qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement de médicaments dans les pays. Et elle constitue alors la forme la plus récente de l'implication de la communauté européenne dans le domaine de la santé. La question du médicament a toujours été un volet important de l'aide européenne au développement et dans la santé. Donc, c'est la Convention de Lomé 4, en plus d'autres dispositions relatives à l'aide à l'ajustement structurel, etc., qui donc fait entrer la nouvelle Convention, élargit le champ de cette coopération culturelle à d'autres champs, nutrition, population, démographie, renforce les dispositions relatives à la santé. Donc la santé est vraiment érigée comme un facteur de développement économique. Alors c'est intéressant cette approche parce que comme vous l'avez entendu peut-être la semaine dernière, on a exactement dans ce même moment, dans le début des années 90, une prise en compte de la santé comme facteur de développement en dehors du milieu du travail, au sein de la construction européenne, au sein des États membres de l'Union européenne. Et parallèlement, sur son aide extérieure, l'Union européenne va également accorder beaucoup plus d'attention politique et financière à la question de santé. Ça se fait en parallèle entre l'Union européenne en son sein et entre l'Union européenne et l'extérieur. C'est assez intéressant de voir ce parallèle en étendant donc les sujets au-delà des questions de santé du travailleur pour promouvoir le développement économique et social des pays, objectif primordial de la communauté depuis toujours. C'est vraiment son objectif. Alors, à l'époque, les questions de système de protection sociale ne figurent pas parmi les priorités de l'aide au développement européenne. Elle l'est complètement aujourd'hui. C'est une priorité du commissaire, c'est une priorité de l'aide européenne, c'est une priorité au niveau mondial de l'OMS, etc. Mais la question de protection sociale, d'emploi, sont des priorités de la politique de développement. Bon, là, je vous rappelle les dispositions pour ceux qui s'intéressent aux dispositions sur le commerce, parce que voici toutes les dispositions de relations privilégiées entre les pays ACP et l'Union européenne qui sont remises en question, établies donc renforcées sous l'OMC 4 et qui sont remises en question lors de négociations sur les accords de partenariat économique et qui remettent en question ces accords préférentiels, ce qui pose quelques problèmes à ces pays qui ne sont pas tous enthousiastes à signer les accords de partenariat économique. Voilà quelques références donc, sur la politique de développement. Alors finalement, quelles sont les évolutions des interventions sur ces 20 dernières années ? L'implication de la Commission européenne n'arrive pas à n'importe quel moment. Le SIDA est vraiment un élément déterminant. D'ailleurs, l'unité qui va être la première installée à Bruxelles, ce ne sera pas une unité santé, ce sera une unité SIDA. Donc c'est vraiment la question du SIDA, l'appel de l'OMI 4. Et c'est le moment exactement aussi où, peu de temps avant, s'était installé le programme mondial SIDA de l'OMS à Genève, dirigé par Jonathan Mann. Et la Banque mondiale, de son côté, produit le rapport en 1987 sur le financement des services de santé dans le développement. Donc il y a quand même des étapes majeures à Genève, à Washington, à Bruxelles, dans ces années-là, l'arrivée de la Commission européenne et de la Banque mondiale dans le champ de la santé et du développement. C'est intéressant que le vice-président de la Commission européenne, un Italien à l'époque, avait adressé dès 1988 à l'ensemble des États ACP un mémorandum les invitant à participer à un programme CEE, ACP, lutte contre le sida. Et il a eu une très forte réponse de ces États ACP. Ça fait partie des succès de la coopération Union européenne-ACP sur ces sujets. De nombreuses résolutions sont prises par la suite reconnaissant les conséquences économiques et sociales du sida sur les populations des États membres. Et la Commission européenne, donc, étend ensuite son champ d'intervention du sida à la santé plus globalement, crée une unité santé-sida à la DG Développement à l'époque, et un premier document de politique, la première résolution du Conseil européen, donc coopération avec les pays en voie de développement dans le domaine de la santé en 1994. Alors ici, ce n'est pas très net, mais vous avez les documents de politique principaux depuis 1994 de la politique coopération sanitaire de l'Union européenne. C'est Health and Poverty en 2002 et la communication la plus récente qui définit actuellement la politique européenne dans le domaine de la santé, EU Role in Global Health. Voilà, et entre-temps, vous avez des cadres d'action pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous avez des cadres, donc des cadres politiques pour le développement des ressources humaines, la question des crises, de manque, des pénuries des ressources humaines. Ça est un sujet très abordé par les politiques européennes, y compris dans les pays, pas assez au niveau opérationnel, mais quand même, il y a eu des programmes d'intervention au niveau national sur ces sujets, donc ici. Et vous avez le cadre général mondial avec la création du Fonds mondial ici, la définition du cadre des OMD, l'alliance Gavi pour la vaccination et l'immunisation. Donc vous avez le contexte ici mondial des relations, des développements des ressources humaines et puis les politiques européennes de santé. Alors, le contenu, en fait, c'est quoi ? C'est l'accès aux médicaments génériques et essentiels, c'est la politique de sécurité transfusionnelle, ce sont des projets de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et ce sont beaucoup des appuis au système de santé. Alors, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de donateurs qui financent l'appui au système de santé dans ces années-là, et la Commission européenne, en don, est un financeur très important du développement des systèmes de santé, de la réforme donc de tarification de financement, de développement des ressources humaines, de développement des districts. Je vais vous en donner un exemple tout de suite avant qu'on termine. Elles s'inscrivent donc ces politiques de renforcement des systèmes de santé dans le cadre des stratégies de lutte contre la pauvreté et avec des mécanismes d'approche sectorielle plutôt que projet. Au début, ils financent des projets, mais ils vont très vite financer des approches sectorielles, c'est-à-dire globales, des approches de politique, de définition de politique nationale du ministère de la Santé, de plan directeur, de mise en œuvre de toute une série d'interventions, de développement des districts au niveau donc départemental, donc une décentralisation importante. Je n'ai pas insisté sur les mécanismes de financement parce que nous n'avons pas le temps. Je voudrais vous amener vers les exemples pays. Alors ici, nous sommes au Nord-Mali. C'est une carte des districts de santé du Nord-Mali. Donc vous avez Mopti ici qui est le niveau régional et vous avez les districts ici. Alors un district c'est quoi ? C'est un département et dans chaque district vous avez un petit hôpital, vous avez des centres de santé et des centres de santé de différents niveaux, basiques, où il y a un agent de santé, des médicaments, quelques médicaments et puis un petit bâtiment. Et puis vous avez des centres de santé de référence où on peut avoir une maternité, un laboratoire, on peut avoir des éléments plus importants. Là, au Mali, la Commission européenne a financé beaucoup le développement des ressources humaines, justement, la formation de personnel, la gestion des ressources humaines pour améliorer la disponibilité de médecins, de soignants dans les régions rurales, justement, au nord Mali, par exemple. Ici, nous sommes à Madagascar, donc l'appui au système de santé de plusieurs régions de Madagascar. Dans le district, c'est quoi ? C'est une structure administrative déconcentrée du ministère de la Santé qui a pour mission d'améliorer la couverture sanitaire, l'accès, donc la couverture sanitaire, c'est-à-dire le plus possible de centres de santé par rapport au bassin de population, ramener au bassin de population, donc rapprocher le centre de santé, les ressources humaines des populations, améliorer le niveau de référence, approvisionner en médicaments et améliorer la qualité des soins. Donc il y a une mission technique, une mission administrative et une mission financière d'amélioration de l'offre de services de soins dans cette région. Là, vous avez donc les différents niveaux de soins, donc ce que je vous disais il y a un instant, entre les centres de santé qui peuvent être basiques, mais aussi avec un plateau technique amélioré, un petit hôpital de district dont le nombre de lits va dépendre de la population. Ça peut être 10 lits, 20 lits, 30 lits, selon les régions, un peu plus parfois. Un hôpital au niveau de la région, du chef-lieu de région, et puis l'hôpital de référence nationale où souvent il y a une faculté de médecine aussi. Donc là, nous sommes à Madagascar. L'Union européenne a financé le développement de districts de santé en milieu rural. Donc c'était vraiment pertinent, très attendu, très intéressant du point de vue du partenariat, parce que c'est un partenariat vraiment, une collaboration entre l'institution européenne et les représentants donc, du ministère de la Santé dans ces districts. L'instrument et le devis programme, c'est sous la forme d'un projet pour des interventions localisées. Donc, ça peut être de la réhabilitation, de l'équipement, de centres de santé, de la formation de personnel de santé, de l'approvisionnement en médicaments, amélioration de la gestion des stocks. Enfin, il peut y avoir une aide technique aussi importante en appui à cette mise en œuvre. Ici, en Côte d'Ivoire, l'Union européenne a beaucoup appuyer la politique d'approvisionnement justement et la politique pharmaceutique pour l'accès aux médicaments essentiels et génériques en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays d'Afrique en général. Donc approvisionnement et distribution et gestion des stocks. Là, on est dans un centre de santé donc à Abidjan, un centre de santé communautaire géré par une association d'usagers dont on a parlé la semaine dernière et où il y a un petit hôpital de jour. Et là, vous avez le dépôt de la pharmacie pour le centre. Ici, nous sommes au Bénin, donc un gros projet de 7e FED au Bénin, 8e FED, d'appui au système de santé dans trois régions et notamment à un hôpital de district que vous avez ici, l'hôpital de zone, ils appellent ça l'hôpital de zone au Bénin, de Sakété, et qui a été complètement réhabilité, rénové, équipé par l'Union européenne. Et là, vous avez le chemin d'accès à l'hôpital. Vous voyez que s'il y a une urgence, c'est un peu encombré. Mais l'Union européenne a financé la construction de routes dans beaucoup, beaucoup de pays. Et là, vous avez un centre de santé, ce que je vous appelais de référence, c'est-à-dire un centre de santé où vous avez une maternité, un laboratoire, quelques équipements. Et ici, vous avez un centre de santé privé, confessionnel, pas très loin de celui-là géographiquement. Nous sommes au Bénin, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et qu'est-ce que l'on note ici, le centre de santé réhabilité équipée où il y a quelques personnels de santé, pas grand monde. Pourquoi pas grand monde? Ça faisait partie de nos observations lors de l'évaluation de la contribution de l'Union européenne à la santé du Bénin, parce que justement dans ce centre voisin, il y avait un centre joli où les gens étaient habitués à venir, pas cher, où les consultations et les traitements n'étaient pas chers, des médecins présents, bien formés, gentils. Vous voyez toute la question de la qualité de l'accueil, de la beauté de l'endroit, de la confiance que les gens, les patients et familles ont dans le personnel. Tout ça sont des dimensions qui comptent beaucoup pour l'utilisation des services de santé. Et les personnes de cette région préféraient aller là plutôt qu'ici, dans le centre de santé publique. Donc ça, c'est vraiment des aspects importants à prendre en compte lors de la réhabilitation, bien sûr, la mise en œuvre d'un projet, une étude exploratoire. Alors, quels sont les enjeux pour l'Union européenne ? Le positionnement politique de l'Union européenne au sein de la gouvernance mondiale, OMS, Banque mondiale, le Fonds mondial, Gavi, tous ces partenariats publics mondiaux, où l'Union européenne est bien siège dans les conseils d'administration, mais quel est son poids ? Qu'est-ce qu'elle défend ? Quel est son avantage comparatif ? Est-ce que les systèmes de santé font toujours partie des priorités de l'Union européenne ? Oui, mais concrètement, avec quelles modalités de financement sur le terrain, etc. Est-ce que la santé intéresse les ambassadeurs de l'Union européenne dans les pays ? Est-ce que ce secteur est choisi parmi les trois secteurs de concentration des délégations de l'Union européenne au moment de la programmation d'une aide sur 7 ans ? Ils sont invités à choisir 3 secteurs. Est-ce qu'ils vont choisir la santé ? C'est la même question pour nos ambassades de France dans les mêmes pays. Quel est l'intérêt politique pour ce secteur ? C'est souvent très petit, l'intérêt politique, et c'est souvent un secteur qui fait peur à des politiques parce qu'ils ne savent pas comment montrer des résultats. Et donc, ils préfèrent choisir des secteurs où il est plus facile de montrer des résultats, notamment dans le pays, mais aussi par rapport aux contribuables, à la Cour des comptes. Ils sont beaucoup sous pression du Parlement, de la Cour des comptes, du contribuable, donc pour montrer des résultats. Et en santé, ce n'est pas facile de montrer des résultats d'une part, de les mesurer, et ce n'est pas facile de les attribuer. On peut montrer des résultats, mais c'est grâce à qui ces résultats ont été faits. Quelle importance, me direz-vous ? Mais quand on est un donateur, c'est important de pouvoir dire c'est nous qui avons permis que tant de malades aient eu accès à ces traitements, que tant de formations sanitaires aient été rénovées, que tant de personnels ont été formés. Et surtout, ça, ce sont des nombres et des indicateurs de couverture, et surtout, quel a été l'impact de tout ça sur l'état de santé des populations et l'état et le nombre de malades et la mortalité des enfants, des femmes enceintes, et etc. Voilà un petit peu les questions qui se posent pour tous les pays et au niveau international, avec la question, en tout cas, du point d'interrogation sur le devenir de ce financement FED, qui correspond peut-être, cette question, à l'évolution, justement, du monde et à l'évolution aussi d'une vision de la coopération, moins sur des relations historiques, peut-être, que sur cette globalité, cette totalité du monde et de partenaires de pays différents où nous serions tous partenaires et on n'aurait pas besoin d'un financement spécifique. Voilà, je vous remercie. C'était quelques choses que je voulais partager avec vous.